Vous écoutez On lit pour vous.
Viol, mythe et préjugés. Un texte de Rima El-Khoury paru le 15 janvier 2025 dans la presse. En prenant connaissance des avis d'expertes qui ont déboulonné les mythes et les préjugés sur les violences sexuelles au procès civil de Gilbert Rozon, je n'ai pu m'empêcher de penser à l'incroyable chemin parcouru depuis une décennie. Je me souviens de l'incrédulité au lendemain de l'affaire Yann Gomeshi, cet ex-animateur vedette de la CBC, remercié en 2014, à la suite d'allégations d'agression sexuelle et acquitté au terme d'un procès criminel en mars 2016. Si ces femmes disaient vrai, pourquoi n'avaient-elles pas immédiatement couru vers le poste de police, demandait-on à l'époque? Comme si l'absence de dénonciation était en soi la preuve qu'elle mentait. C'est ainsi qu'avait été lancé le mot-clic hashtag Being Raped Never Reported et son pendant francophone hashtag Agression Non Dénoncée dans les médias sociaux en novembre 2014. 3 ans avant hashtag MeToo, on a alors assisté à un premier déluge de témoignages de femmes qui racontaient avoir subi des agressions sexuelles et ne les avoir jamais dénoncés. Comme le rappelle Sarah Pauly dans « Cours vers le danger », édition Boréal, même si le mouvement a donné lieu à un tsunami de témoignages qui donnait à croire que l'on était en route vers un changement systémique majeur, les femmes qui ont témoigné contre Gomeshi ont plutôt eu droit à une séance d'humiliation majeure. On les a ridiculisées pour leur trou de mémoire et le fait d'avoir gardé des liens avec celui qu'elles accusaient de leur avoir fait subir des violences. Contrairement aux plaignantes dans l'affaire Weinstein, ces femmes, tout comme les autres plaignantes de l'ère pré-hashtag MeToo, n'ont pas eu droit au soutien de témoins experts pour expliquer l'effet des traumatismes sur la mémoire, souligne avec amertume la cinéaste et comédienne torontoise. Elle dévoile dans son livre avoir elle-même été une victime de l'ex-animateur. Elle tente d'expliquer pourquoi elle s'est longtemps tue et n'a jamais porté plainte. Pourquoi aussi elle croit les autres femmes qui l'ont dénoncée. « Je crois ces femmes, dit Sarah Pauly, dans « Cours vers le danger », parce que leur conduite contradictoire après les faits allégués, les incohérences de leurs récits et leur trou de mémoire me rappelle mon propre comportement, mes propres oublis. Près d'une décennie plus tard, dans la foulée du mouvement hashtag moi aussi, les mythes et préjugés sur les violences sexuelles n'ont pas disparu. Mais nous pouvons compter sur davantage de connaissances, de données scientifiques et de garde-fous pour éviter qu'ils servent à miner injustement la crédibilité des victimes. On comprend beaucoup mieux aujourd'hui que le scénario de la bonne victime qui se dépêche de porter plainte à la police coupe immédiatement tout lien avec son agresseur et livre un témoignage sans aucune hésitation ou aucun trou de mémoire est un scénario stéréotypé qui a peu à voir avec la réalité de la plupart des victimes. Comme l'ont rappelé 2 témoins expertes au procès civil de Gilbert Rozon, accusé d'agression sexuelle et de viol par 9 femmes, les violences et les traumatismes psychologiques entraînent des troubles de mémoire et des réactions de dissociation qui sont bien documentées. Devant la surdose de douleur, de honte ou de peur, le cerveau tente de se protéger. Un peu comme un fusible qui disjoncte en cas de surcharge de courant. Dans le rapport d'expertise co-signé par Karine Barry et Sandrine Ricci, présenté à la Cour en début de semaine à la demande des avocats des 9 femmes, on souligne, étude à l'appui, que contrairement à ce que l'on pourrait croire, les altérations de la mémoire font partie des facteurs associés à une meilleure crédibilité du témoignage des victimes d'agressions sexuelles. Les recherches scientifiques indiquent que les trous de mémoire avoués et les incertitudes lors d'un témoignage d'une personne adulte sont des facteurs associés à une plus grande vraisemblance, même si, dans les faits, le système de justice tend à y voir au contraire le signe d'un manque de crédibilité. Le fait de ne pas courir porter plainte à la police ou d'attendre des années avant de le faire, s'explique aussi par de nombreux facteurs qui ne minent en rien la crédibilité des plaignantes. En fait, l'agression sexuelle demeure le crime le moins souvent dénoncé aux autorités. Au Canada, seulement 6% des agressions sexuelles ont été signalées à la police en 2019, comparativement à 37% des voies de fait et 46% des vols qualifiés. Le crime demeure tout aussi sous-déclaré pour les femmes qui ont été victimes des formes les plus graves d'agressions sexuelles. Pourquoi? Parce qu'elles ont très souvent honte et se sentent coupables. Parce qu'elles craignent de ne pas être crues. Parce qu'elles ne veulent pas couvrir de honte leur famille. Parce qu'elles ne font pas confiance au système de justice. Depuis, #moi aussi, un travail colossal sur plusieurs fronts s'est fait au Québec pour justement rebâtir cette confiance amochée et déboulonner les mythes encore trop présents sur les victimes de violences sexuelles. À la suite d'une recommandation du comité d'experts « Rebâtir la confiance », on a notamment modifié le Code civil pour exclure le recours aux mythes et préjugés dans l'évaluation de la crédibilité des victimes de violences sexuelles. En suivant le procès de Gilbert Rozon, qui nie les accusations portées contre lui et dont les avocats plaident que ce nouvel article du Code civil sur les mythes et les préjugés ne peut être invoqué dans le cadre de son procès, on mesure le chemin parcouru, mais aussi celui qui reste à faire. Et on ne peut que saluer le courage de toutes ces femmes qui, sur ce chemin boueux semé d'obstacles, s'avancent à la barre, déterminées à ce que la honte change de camp. C'était « Viol, mythe et préjugés », un texte de Rima El-Khoury, paru le 15 janvier 2025 dans La Presse.
Un squat de luxe dans une usine abandonnée. Un texte de Marco Forti, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir. Un projet artistique irrévérencieux a fait son nid de façon clandestine dans un bâtiment industriel désaffecté de Montréal. Des militants ont construit un chic studio de style victorien au milieu des décombres grâce à une subvention du Conseil des arts du Canada pour prouver qu'il est possible d'agir vite et bien contre la crise du logement. On accède par une mince ouverture dans l'immeuble barricadé situé au 4000 rue Saint-Patrick, à deux pas du canal de la Chine, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. L'immense bâtiment de deux étages couvert de graffitis est glacial en cette journée de décembre. L'humidité nous transperce les os, toutes les fenêtres sont fracassées, des débris de verre, de bois et de métal rouillés jonchent le sol. « Attention où vous mettez les pieds », préviennent Marc-Antoine Goyette et Gabriel Lacombe, en nous guidant dans ce fatras aux allures de labyrinthe qu'ils connaissent comme le fond de leur poche. Le duo s'active depuis 4 ans, patiemment, à aménager un cocon douillet au beau milieu de ce capharnaüm. Pour parvenir à leur pièce secrète, on les suit à gauche, puis à droite, en contournant les innombrables obstacles qui peuplent ce lieu fantomatique. Ici, un sofa éventré, 3 fauteuils déglingués et des bouteilles cassées entourent ce qui a été un feu de camp. Un peu plus loin, des dizaines de bacs à ordures démembrés ont été jetés au sol. Un escalier chambranlant nous mène à l'étage supérieur de l'ancienne usine, où règne le même fouillis. Mais un trésor insoupçonné se cache derrière un mur tapissé de graffitis. En ouvrant une porte savamment dissimulée, on entre dans une chambre qui semble sortie d'un magazine de décoration. Un lit de bois ouvragé trône au centre de la pièce, sur un magnifique tapis couleur crème. Une tapisserie dans le même ton orne les murs. Un puits de lumière illumine la chambre. On se sent presque gêné de marcher avec nos bottes sur le plancher de bois franc immaculé. Soulager la misère. Ce qu'on met en place, c'est un squat de luxe, résume Marc-Antoine Goyette en nous racontant l'histoire de ce projet improbable et audacieux qu'il qualifie de « pied de nez au système capitaliste ». Les deux amis, l'un est architecte, l'autre est ébéniste et designer, ont eu l'idée d'aménager un salon pour des personnes itinérantes à l'automne 2020. Indignés par le triste sort des personnes jetées à la rue, les deux idéalistes se sont mis en quête d'un immeuble désaffecté qui pourrait être mis à contribution pour soulager la misère des pauvres. Leurs recherches les ont menés à l'ancienne usine de la Canadian Power Boat, en bordure du canal de la Chine, où des navires de la marine canadienne ont été fabriqués à compter de 1940. Le chantier naval a fermé ses portes depuis longtemps. La ville de Montréal est désormais propriétaire de l'immeuble, qui a été abandonné en 2013 après avoir servi de lieu d'entreposage. Marc-Antoine Goyette et Gabriel Lacombe sont outrés que ce bâtiment de 300 000 pieds carrés soit barricadé à gros prix par une entreprise spécialisée en attendant sa nouvelle vocation. Dignité pour tous. On est en pleine crise du logement. Des centaines de personnes dorment dans la rue ou dans des tentes. On a décidé qu'ici, c'est à tout le monde. Avec beaucoup d'audace, du jus de bras et de la volonté, on peut se réapproprier l'espace, dit Gabriel Lacombe. De l'audace, vous dites? Le duo n'a jamais demandé la permission de la ville pour aménager son squat de luxe. On arrivait sur notre chantier avec nos outils, notre génératrice, nos uniformes et nos casques de travail. Puis on travaillait, résume Marc-Antoine Goyette. Les créateurs ont obtenu une subvention du Conseil des arts du Canada pour réaliser leur projet qui a coûté environ 25 000 $. Ils avaient indiqué tous les détails de leur initiative dans leur demande de subvention. « Ce studio, c'est de l'art subversif », explique-t-il. On s'est dit « On va incarner le faste du victorien, du royal, dans un milieu à l'abandon qui est déjà investi par des pauvres. Les pauvres ont le droit à la beauté, au prestige, à la dignité. » On traite l'accès à l'art comme un besoin essentiel, au même titre que le logement, résume Marc-Antoine Goyette. L'ancienne usine est habitée discrètement par des squatteurs. Même en plein hiver, en faisant le tour de l'immeuble, on croise un jeune homme emmitouflé dans une grosse doudoune qui quitte les lieux avec son sac à dos. Il n'a pas envie de jaser. Vous écoutez, un squat de luxe dans une usine abandonnée. Un texte de Marco Fortier paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir. Un studio convoité. Les squatteurs ignorent l'existence d'un petit coin douillet malgré l'absence de chauffage et d'eau courante. Bien camouflé dans ce bâtiment qui se décompose lentement au fil des saisons, Marc-Antoine Goyette et Gabriel Lacombe sont conscients que la chambre, même cachée derrière des murs dans le vaste bâtiment, risque d'être convoité après la publication de ce reportage. Ils disent souhaiter que ce projet d'appartement gratuit et 100% subventionné, construit dans un immeuble municipal, héberge des gens qui en ont besoin. Pour confirmer la valeur extraordinaire du projet, ils ont offert leur studio en location à 550 $ par mois sur Facebook. Ils ont dû retirer leur annonce au bout d'une journée et expliquer à tous les intéressés qu'il s'agissait d'un coup d'éclat. Marc-Antoine Goyette affirme avoir été submergé par 240 messages en quelques heures. Certaines personnes étaient prêtes à me donner 600 $ pour réserver le bachelor sans même l'avoir visité. Les gens me racontaient leur vie. Ça démontre l'ampleur de la détresse actuelle, dit-il. S'inspirer des bidonvilles. Le pire scénario, pour les deux militants, serait la démolition de ce trésor caché parce que l'endroit est dangereux et insalubre, comme les campements de personnes itinérantes qui ont été démantelés à Montréal et ailleurs au cours des dernières semaines, des derniers mois et des dernières années. On jette les gens à la rue en disant que c'est pour leur bien, déplore Gabriel Lacombe. il a étudié les bidonvilles de l'Inde, dont le plus important, Dharavi à Mumbai, pour son projet de thèse en architecture. Il est convaincu que ce modèle d'organisation sociale peut inspirer le Québec et les autres pays riches. Oui, vous avez bien lu. Les bidonvilles de l'Inde recèlent peut-être des leçons pour le Québec. On n'est pas en train de faire l'apologie des bidonvilles. C'est une réponse de misère à une situation de misère. Mais en Inde, ils ont compris qu'il faut arrêter de les tasser et plutôt essayer de les aider, dit-il. Les bidonvilles sont des campements qui deviennent permanents, faute de mieux. Les autorités indiennes ont conclu qu'il valait mieux brancher les bidonvilles sur les réseaux d'égouts et d'électricité plutôt que de les démanteler, souligne Gabriel Lacombe. Lui et son collègue disent souhaiter que la ville accompagne les squatteurs avec l'appui d'intervenants du réseau de la santé et des services sociaux plutôt que de les expulser. La ville n'a pu répondre aux questions du devoir pendant le congé des fêtes. Un projet de développement prévu depuis 3 ans. Un projet de développement immobilier est prévu depuis l'automne 2021 sur cet ancien site industriel. La firme Sidley Architecture avait remporté un concours en proposant un pôle artistique, entrepreneurial et technologique. Les bâtiments existants accueilleront des ateliers d'artistes et des espaces d'exposition ainsi que des industries artistiques et créatives. 3 nouveaux bâtiments accueilleront un pôle alimentaire, comprenant une grande serre pour l'agriculture urbaine, un cluster pour les entreprises technologiques, ainsi que des logements pour les artistes et un hôtel, avait indiqué le cabinet de la mairesse à l'époque. La ville devait vendre l'immeuble à l'entreprise qui aurait eu 4 ans pour livrer son projet. Au moment du passage du devoir, fin décembre 2024, aucun signe de chantier n'était visible sur les lieux. Nous collaborons actuellement avec la ville de Montréal pour mener à bien ce projet, indique Samuel Courtemanche, gestionnaire de la marque et des communications chez Sidley Architecture. L'entreprise est disposé à explorer les solutions qui répondent aux besoins de la communauté tant avant qu'au cours des premières phases de construction. Par exemple, l'aménagement de logements temporaires pour les personnes en situation d'itinérance ou d'autres initiatives à vocation sociale, a-t-il précisé. De leur côté, Marc-Antoine Goyette et Gabriel Lacombe craignent que cette ancienne usine finisse, comme à peu près tous les autres immeubles le long du canal de la Chine, en condos de luxe pour gens urbains et branchés. C'était un squat de luxe dans une usine abandonnée, un texte de Marco Fortier, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir.
Un patrimoine immatériel vivant, un texte d'Hélène Schaff, paru le 12 décembre 2024 dans la Gazette des femmes. Construit dans le Vieux-Québec dès 1695, le monastère des Augustines en impose par son architecture. C'est pourtant l'héritage immatériel de ses bâtisseuses qui retient l'attention. Ces femmes ont été de véritables entrepreneurs, à même de nous inspirer encore aujourd'hui. La reconversion de leur lieu de vie en havre de mieux-être pour la population est l'exemple même de leur vision unique. Revenons en arrière. Nous sommes en 1639. 3 religieuses françaises, dans la vingtaine, débarquent à Québec. Elles ont pour mandat de soigner les colons et les autochtones. Ces femmes, qui ont traversé la mer pour s'aventurer sur une terre inconnue et austère, étaient avant-gardistes et décidées, estime sœur Lise Tanguay, supérieure générale de la Fédération des monastères des Augustines du Canada. Et d'ajouter, le féminisme ne date pas d'aujourd'hui. Les Augustines créeront non seulement le monastère de Québec et son Hôtel-Dieu, mais également 11 autres monastères-hôpitaux. Un patrimoine fondateur des soins de santé au Québec qu'elles ont géré de main de maître jusqu'aux années 1970. Une administration efficace reconnue jusque dans les hautes sphères du pouvoir. Alors premier ministre, Maurice Duplessis décore la sœur Marie-Joseph pour sa gestion de l'hôpital de Chicoutimi et va jusqu'à lui lancer « Cette valeur que vous soyez une religieuse, je vous aurais fait mon ministre du Trésor. » Pour autant, aucun égo là-dedans. Elles sont au service du bien-être de la population et rien d'autre. Alors que sœur Lise vient d'être promue, la nouvelle directrice générale fondatrice de l'OBNL, fruit de la reconversion du monastère, Isabelle Duchesneau, la félicite chaleureusement. Mais l'Augustine lui répond de manière inattendue. « Merci Isabelle pour tes félicitations, mais sache que je suis au service de mes sœurs. » Autrement dit, chacune a son rôle et aucun rôle n'est meilleur que l'autre. La gestionnaire a pour mandat de soutenir son équipe, pas de briller. D'ailleurs, les décisions se prennent ensemble, à coup de vote. Un style de gestion féminin qui a transformé l'approche de la directrice. Répondre aux besoins du temps. Des entrepreneurs de cœur, donc, mais aussi de véritables visionnaires, pour qui la mission est de répondre aux besoins du temps. Tandis que la religion cède du terrain et que l'État reprend la gestion des hôpitaux, le déclin des Augustines semble inéluctable. S'il comptait encore 170 sœurs en 1968, le monastère n'en dénombre aujourd'hui plus que 6. Très tôt, dès les années 1990, les Augustines entament leurs réflexions sur leur legs. Elles ont affronté leur propre déclin et leur propre mort, souligne Isabelle Duchesneau. Issue du monde du tourisme, cette dernière a travaillé de concert avec les religieuses pour faire du monastère un patrimoine vivant qui conserverait les valeurs des sœurs. Elle les a beaucoup observées pour créer la forme contemporaine actuelle du monastère. Et ce qu'elle a découvert l'a fascinée. Elles ont été des entrepreneurs efficaces, et elles le prouvent encore au travers de ce legs. En effet, anticipant leur déclin sur plusieurs décennies, les sœurs ont mis en branle ce qu'elles appellent dans leur jargon le « savoir-savoir », toujours se raccrocher à leur mission, mais s'adapter, innover. Elles l'ont fait au cours de leurs presque 400 ans d'existence, restant toujours à la fine pointe de la technologie en matière de soins, certaines allant même se former aux États-Unis. Pour cette reconversion, elles iront consulter toute une communauté d'experts, d'expertes, d'entrepreneurs et de fonctionnaires pour les aider dans leur entreprise. La santé des corps et des âmes. De ce processus, ont été créés une fiducie d'utilité sociale et un OBNL, un legs fait à la population québécoise, une vocation renouvelée pour une hospitalité renouvelée, commente Sœur Lise. Dans leur pratique de soins, les sœurs traitaient bien sûr les corps, mais elles s'assuraient aussi de la santé émotionnelle, mentale et spirituelle de leurs patients, patientes et de leur entourage. Cette vision holistique de la santé s'exprime dans la mission actuelle du monastère, accueillir toutes et tous, selon les valeurs universelles des sœurs, en mettant l'accent non pas sur la religion, mais sur la santé globale. Au-delà de l'hôtellerie, des retraites et des soins, quiconque passe un temps au monastère peut ressentir l'esprit du lieu. Un sentiment de quiétude et de paix l'habite, en plein centre-ville de Québec. C'est un lieu pour se recueillir, une occasion de se retrouver avec soi, ajoute la religieuse. Sœur Lise est entrée dans les ordres, il y a 60 ans déjà, et c'est cette vie spirituelle qui l'a nourrie et lui a permis d'être au service des autres. Pour elle, l'action et la contemplation se doivent d'être en équilibre. Chez les Augustines, cela se traduit par la prière plusieurs fois par jour. Notre prière nourrit notre action, et notre action nourrit notre prière. La prière du matin, c'est notre vitamine de base pour vivre notre journée. C'est fondamental. Si les sœurs prient, la supérieure générale affirme que la connexion à plus grand que soi peut se faire de manière différente, comme une simple marche en nature. La force de la communauté. Questionnée sur sa vocation de sœur et infirmière, elle répond sans hésiter. « J'ai été heureuse, je recommencerai la même chose demain matin. » Outre le retour à soi et les temps d'arrêt, la sororité l'a aussi beaucoup nourrie. Pour les Augustines, le collectif est essentiel, renchérit Isabelle Duchesneau. Chaque individu prend soin de soi pour pouvoir servir la communauté. En retour, la communauté prend soin des individualités. En ce sens, les religieuses sont très fières du caractère transformateur des séjours pour le public, mais aussi du programme de répit pour les aidants aidantes naturelles offert par le monastère. « On est soignante un jour, soignante toujours », rappelle Sœur Lise. Sa compassion se tourne ainsi vers les soignants soignantes et aidants aidantes qui doivent faire face à un rythme parfois intense. Ils et elles ont tendance à accumuler et accumuler chaque jour sans avoir la possibilité de se déposer. Les sœurs, elles, rentraient au monastère après une dure journée de labeur et se serraient les coudes. Lors du souper, il y avait toujours des personnes pour écouter et les soirées étaient consacrées à des temps de jeu et de partage. Prendre soin les uns les unes des autres pour mieux vivre ensemble, voilà peut-être ce qui les a guidés pendant tant d'années et ce dont nous pouvons encore aujourd'hui nous inspirer. C'était un patrimoine immatériel vivant, un texte d'Hélène Schaff, paru le 12 décembre 2024 dans la Gazette des Femmes.